Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Monseigneur Marc Ayé, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron.
Monseigneur Marc Ayé, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes heureux de vous retrouver en cette rentrée pour notre entretien mensuel diffusé simultanément sur Radio Lapourdi en Pays Basque et sur Radio Présence en Bigorre et Béarn. Alexandre Aguerre, bonjour.
Bonjour.
Alors avec vous, nous allons évoquer les grands événements de notre diocèse, le pèlerinage diocésain à Lourdes, bien sûr, qui vient de se terminer, la béatification du Père Sestac, prévue pour la fin de l'année prochaine, et puis vos préoccupations en ce début d'année, le sort des chrétiens d'Irak, et puis également la pastorale familiale au moment où va débuter le synode pour la famille à Rome. Mais d'abord, un petit retour sur ce grand pèlerinage diocésain qui a eu lieu donc à Lourdes avec l'hospitalité basco-béarnaise du 19 au 22 septembre. 980 hospitaliers, 437 malades. Vous y étiez. Quel bilan faites-vous de ce pèlerinage diocésain ?
Moi, je fais un bilan toujours très positif de ce grand pèlerinage diocésain au début de notre année pastorale. C'est vrai qu'on voit bien la mobilisation des hospitaliers et des hospitalières qui se poursuit avec beaucoup d'enthousiasme auprès de ces nombreux malades qui peuvent faire ce pèlerinage. C'est un grand pèlerinage, que le pèlerinage de l'hospitalité basco-béarnaise. Vous avez dit 980 hospitalières, il faut ajouter les 200 jeunes quasiment qui pratiquent, qui participent aussi à ce service de nos établissements d'enseignement catholique en particulier, et le nombre impressionnant de malades. Voilà. Donc moi je suis très heureux par la ferveur d'abord qui gagne ces assemblées au cours des messes célébrées. Je pense très particulièrement le samedi matin à la messe au cours de laquelle plusieurs centaines de nos malades ont reçu le sacrement de l'onction des malades, qui est un moment très fort de cette tendresse de Dieu qui s'exprime à la fois à travers la charité des hospitaliers et des hospitalières qui entourent ces malades, et puis de manière tangible l'expérience que l'on peut faire de la tendresse de Dieu, de cette grâce de réconfort, de paix, de courage qui est donnée aux malades à travers ce beau sacrement pour vivre ces difficultés inhérentes à l'état de maladie ou inhérente à la fragilité de la vieillesse. Donc il y a vraiment, c'est un pèlerinage, on appelle le pèlerinage sourire, la participation maintenant des enfants, dont on pourra peut-être parler, mais c'est vrai que c'est le pèlerinage sourire de manière générale, c'est la joie qui se lit sur les visages, joie partagée, qui est reçue du Seigneur, dont on fait vraiment une expérience à Lourdes, très particulièrement sous le regard de Marie, et aussi à travers cette entraide, cette solidarité entre les bien portants et les malades.
Dans votre homélie, le dimanche, vous vous adressiez aux malades, mais aussi à tous les diocésains. Vous avez appelé à la conversion et pour être disciple missionnaire.
Voilà, je suis parti évidemment de l'évangile du jour, qui était l'évangile des ouvriers de la vigne, et en particulier des ouvriers de la 11e heure, comme l'on dit souvent, qui reçoivent le même salaire, au comble de l'injustice, si on la lisait comme une leçon de justice sociale, que ceux qui ont porté le poids du jour et de la chaleur toute la journée. Mais ce que j'ai voulu dire, c'est que ça n'était certainement pas dans la bouche de Jésus une leçon de justice sociale, mais un appel à la conversion, l'embauche dont il s'agit, allez vous aussi à la vigne, c'est entrer dans l'alliance avec Jésus et entrer dans le peuple de l'alliance qu'est l'Église pour être des disciples de Jésus et en même temps des disciples missionnaires, comme nous dit sans cesse le pape François, cette conversion missionnaire à laquelle il appelle l'Église dans la suite de ses prédécesseurs, en les appelant toujours plus à la nouvelle évangélisation. Cette conversion missionnaire qui passe en effet par la proximité avec tous, et en particulier les plus petits et les plus faibles. Et c'est vrai qu'on voit que le pèlerinage diocésain, avec cette attention quotidienne de chaque instant aux plus faibles, aux plus fragiles, aux malades, aux handicapés, je pense aux jeunes handis qui participent toujours et qui sont aussi une des joies de ce pèlerinage diocésain, est aussi un lieu d'expression de cette conversion missionnaire, en disant toujours que quand il s'agit de témoigner de sa vie, il s'agit de témoigner d'une vie transformée par la présence vivante du Seigneur qui parle de Jésus, Hein. Et j'ai dit, en effet, il ne faudrait pas que, parce que nous ne sommes pas assez missionnaires auprès de ceux qui nous entourent, dans nos lieux habituels de vie, eh bien, il y en ait qui puissent répondre à Jésus, qui leur dit, mais pourquoi êtes-vous restés là sans rien faire? Ben, personne ne nous a embauchés. C'est-à-dire, personne ne nous a parlé de Jésus, personne n'a suffisamment témoigné de la joie de la conversion qui nous anime quand nous avons rencontré Jésus.
Alors, vous l'avez évoqué, un groupe de 200 lycéens est venu servir chaque année comme hospitalier. Et puis, il y a donc, depuis l'an dernier, ce Pélé Sourire pour les enfants d'hospitaliers. C'est vrai que c'est beau de voir que c'est très familial, qu'on transmet à ces enfants ce service. La relève est donc, selon vous, assurée?
Alors, la relève est en train de s'assurer, mais je crois qu'il faut souligner que c'est une des grâces du pèlerinage de l'HBB, une des grâces du pèlerinage diocésain de Bayonne, Lescar et Oloron, que cette jeunesse qui est vraiment au cœur du pèlerinage. Je pense à ces 200 lycéens qui viennent de nos établissements seulement catholiques. Ça veut dire l'implication des chefs d'établissement, de certains professeurs aussi, qui les accompagnent pendant tous ces séjours, là, depuis le jeudi jusqu'au lundi. Et ce rajeunissement, je dirais, qui donne son vrai visage à l'Église. Souvent, on se plaint à Lourdes. Beaucoup disent à Lourdes, la population vieillit, les pèlerinages sont plus vieillissants. Nous, on a 200 jeunes lycéens avec 980 hospitaliers. Et parmi les hospitaliers, comme vous l'avez vu à la fin de la messe, où il y a l'engagement, le premier engagement des hospitaliers, il y a aussi beaucoup de jeunes. Des jeunes qui sont venus une première fois comme lycéens, une année, pour aider, puis petit à petit qui ont pris goût, qui sont revenus comme hospitaliers, puis qui au bout de 2 ans, 3 ans, s'engagent. Donc ça, c'est une grande richesse de ce pèlerinage. Et puis le Pélé Sourire, une très belle initiative qui est née l'an dernier. Alors évidemment, ils étaient 7 l'an dernier, ils sont 14 cette année, donc on peut penser que le sourire va aller en s'agrandissant, hein. Et ça, je crois que c'est aussi une belle chose, parce que c'est l'Église tout entière, autour des plus fragiles, des malades, qui sont au cœur même de la communauté chrétienne, et c'est le visage universel de l'Église.
Alors le dimanche, c'est la journée où tous les pèlerins du diocèse rejoignent l'hospitalité vasco-béarnaise. Est-ce que vous êtes satisfait de la participation des fidèles du diocèse à cette journée du dimanche? Et faut-il peut-être axer plus l'invitation sur les familles?
Oui, alors moi j'ai été très, très bien impressionné aussi par la grande mobilisation comme des fidèles. On a quasiment rempli l'église Sainte-Bernadette et ça montre que les fidèles ont pris goût à se rassembler, en particulier à se rassembler pour une messe diocésaine. Vous savez que c'est depuis 3-4 ans que nous avons obtenu de la direction des sanctuaires de Lourdes, de ne plus être noyé dans la messe internationale, même si ça a du sens, la messe internationale aussi. J'ai bien conscience que certains sont heureux de ce caractère universel de l'Église. Mais pour un pèlerinage diocésain où on va se retrouver en diocèse qu'une journée, qui est le dimanche, cette messe a tout son sens.
Vous estimez combien de participants à la messe du dimanche matin?
J'irai 3500 peut-être, sachant qu'il y avait quand même des bancs dans la partie gauche de Sainte-Bernadette, vu du cœur où je me tenais, qui était un peu vide, mais elle était quand même très remplie. Et donc je pense qu'il y avait bien 3500 fidèles. J'ai vu des familles, des jeunes familles de la côte basque qui sont venues, et j'ai vu des paroisses qui ont joué le jeu en organisant des quarts. De la côte basque, de Biarritz, de Puyot, de que sais-je encore, d'Arthès, de Béarn, beaucoup d'endroits qui ont fait des quarts pour amener des paroissiens en nombre. Et je crois qu'on devrait axer encore plus sur cette journée familiale et diocésaine, parce que je me suis dit, au fond, c'est un peu une messe de rentrée. Voyez, on a l'impression que c'est la fin du mois de septembre, toutes les activités reprennent. C'est l'occasion ensemble de repartir dans une nouvelle année pastorale. Et je pense qu'on devrait encore plus axer sur la participation des paroisses à cette journée diocésaine.
Alors un nouveau directeur des pèlerinages vient d'être nommé. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus?
Voilà, et bien après la présence de nombreuses années du chanoine Paul Sarcou, qui d'ailleurs est bien fatigué maintenant, il était logique qu'on puisse pourvoir à sa succession. Et puis d'une manière un peu nouvelle, parce que nous ne pouvons plus consacrer un prêtre totalement à la direction des pèlerinages, donc on a choisi la formule d'un curé de paroisse qui pourra s'entourer d'une équipe et qui fera appel à plusieurs prêtres pour accompagner tel ou tel pèlerinage de manière à ce qu'il ne soit pas complètement, lui, bloqué sur l'organisation et l'accompagnement des pèlerinages, ce qu'il ne pourrait pas faire comme curé. Donc le nouveau directeur des pèlerinages, c'est donc l'abbé François de Mesmet, qui est le curé de Notre-Dame-de-l'Assomption Bayonne, donc de la rive gauche de Bayonne, qui, comme d'autres curés d'ailleurs, qui avaient été sollicités mais qui n'ont pas pu répondre, faute de disponibilité, de temps, eh bien, a une propension aussi lui-même à organiser pas mal de pèlerinages dans sa paroisse, donc ça fait partie aussi certainement de ses fibres et de ses charismes.
Radio Lapourdi Iratia, votre radio chrétienne en Pays Basque. À Bayonne 96.8, à Saint-Palais 96.9, à Saint-Jean-Pied-de-Port 106.9. Sur internet, lapourdi.net.
Monseigneur Haillé, le 13 septembre dernier, vous étiez à Bordeaux pour le rassemblement de soutien aux chrétiens d'Irak et aux chrétiens du Moyen-Orient. Était également présent l'archevêque de Bordeaux, Monseigneur Ricard, et je crois également son auxiliaire, Monseigneur Daunien. Est-ce que vous pensez que cette manifestation a eu du poids, notamment au niveau des autorités françaises ?
Alors, dire qu'elle a du poids au plan politique, je ne sais pas. Elle a eu l'avantage certainement d'attirer l'attention quand même des Français sur ce drame qui est vécu par les minorités religieuses en Irak, en particulier les chrétiens, hein, qui sont sans doute la plus grande minorité religieuse qui aujourd'hui est victime de discrimination et de persécution, hein, devant l'avancée des djihadistes de l'État islamique. Comment est-ce qu'on mesure le poids d'une manifestation de ce type où il y avait guère plus de 700 à 900 personnes qui se sont rassemblées quand même un samedi après-midi où il faisait très beau, à Bordeaux, par les dépêches AFP de la presse, hein, et donc il y a eu de fait une dépêche AFP qui a fait le tour des médias et qui a parlé elle-même de grands succès, voilà. Donc je pense que ça c'est intéressant. Les élus de Bordeaux, tout parti politique confondu, était présent, et je pense que par cela ça a pu avoir un peu de poids, mais c'est insuffisant certainement, et pour attirer l'attention et pour vraiment faire prendre conscience du drame qui est vécu et des conséquences non seulement pour l'équilibre du Moyen-Orient et du Proche-Orient, mais pour l'équilibre mondial, hein, car vous savez bien que le monde entier a les yeux fixés sur ce qui se passe là-bas. Il y a une coalition internationale qui s'est quand même constituée pour arrêter l'avancée des djihadistes et leurs exactions. Donc ça peut avoir aussi des répercussions mondiales, et c'est pourquoi il me semble très important de continuer à organiser ce genre d'action pour sensibiliser les Français, nos concitoyens, les chrétiens en particulier, parce que nous sommes forcément solidaires de nos frères et sœurs qui souffrent pour le nom du Christ.
Vous pensez qu'il y a une prise de conscience depuis quelque temps ? Est-ce que l'Occident agit suffisamment ? Et puis est-ce que les autres minorités qui sont aussi en danger, comme les Yazidis, les Kurdes, sont suffisamment soutenues ?
Alors, je pense qu'il y a eu en effet une prise de conscience qui s'est opérée cet été. J'ose croire d'ailleurs que c'est grâce au voyage du cardinal Barbarin, avec Monsieur Golnisch, qui est le directeur de l'œuvre d'Orient, qui est très présente et très actif auprès des chrétiens du Moyen-Orient, qui a un peu crevé l'écran des médias et permis d'attirer l'attention, même si ça a été progressif quand même, hein, et pas tout de suite quand il est parti là-bas. Mais bon, ce voyage du cardinal Barbarin à Mossoul, qui n'était pas encore tombé à ce moment-là, au début du mois de juillet, je pense, hein, à Erbil, où il y a, qui est la capitale du Kurdistan, au nord de l'Irak, où sont réfugiés des centaines de milliers de chrétiens, de yazidis, a permis quand même aussi à la France et au gouvernement français de sortir de son silence. Et M. Fabius est allé sur place Et le gouvernement français s'est engagé et aujourd'hui fait partie d'une coalition internationale. On peut déplorer quand même que ce soit si tard. Vous savez que cette situation inconfortable pour le moins des minorités religieuses et particulièrement des chrétiens pris dans l'étau des combats entre les musulmans eux-mêmes, c'est entre les sunnites et les chiites, date de 10 ans. Depuis la chute de Saddam Hussein, il faut quand même le dire, et la France, en 2003, a refusé de participer à cette opération des Américains, donc c'est tout à l'honneur de la France. N'empêche que c'est depuis que l'Irak a été plongé dans le chaos, ce qui était parfaitement prévisible, et ce qui a donné libre cours aux groupes islamistes, qui se réclament du Coran comme les autres, vous voyez. C'est cela aussi qui est quand même très surprenant. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est dramatique. Il faut quand même que nous prenions conscience, nous ici en France. Nous sommes aidés ici dans notre diocèse parce que nous avons une communauté de Chaldéens à Pau qui sont très cohérents entre eux et qui sont très fervents, très engagés dans leur paroisse, Sainte-Marie du Hameau, dans les quartiers nord de Pau. Et qui m'ont d'ailleurs eux-mêmes alerté pour une action à accomplir ici dans notre diocèse.
Alors cette recrudescence de la violence, vous voulez expliquer donc par la chute de Saddam Hussein notamment. Des responsables musulmans en France ont quand même condamné ces actes.
Bien sûr, heureusement. Oui.
Vous êtes inquiet, vous, pour l'avenir du Moyen-Orient et de ces chrétiens?
Oui, tout à fait, oui. Vous savez que le cardinal Torrent, qui est le président du Conseil pontifical pour les dialogues interreligieux, avait commis un texte assez important au mois d'août, dans lequel il demandait que les responsables musulmans, surtout eux, prennent position pour condamner ces actes en disant si ça ne se faisait pas, ne rendrait pas très crédible le dialogue interreligieux que patiemment nous essayons de mettre en place avec les musulmans. Donc de fait, même si ça a été progressif là aussi, et au départ un peu timide, les responsables musulmans, au moins en France, de manière unanime, ont condamné ces exactions des islamistes. Ils ne nous ont pas expliqué pourquoi les islamistes en question se réclament du Coran comme d'eux, parce que de fait, ces actions de violence sont aussi inscrites dans le Coran. Bon, ça reste un mystère, mais pour l'instant, il faut sans doute se réunir tous et se rassembler pour combattre contre cette violence ignoble, ignominieuse, qu'on croyait impossible en 2014, et qui pourtant s'accomplit souvent dans le silence et l'indifférence, dans ces pays-là et dans les pays musulmans depuis des années.
Quand vous étiez rendu au Liban, vous aviez senti ce danger d'en arriver à cette violence, cette extrême violence?
Alors, sans doute, nous sommes au Liban dans un pays très particulier où il y a un équilibre qui est quasiment miraculeux. Comme disait le pape Jean-Paul II lors de son voyage au Liban, il avait dit le Liban est plus qu'un pays, c'est un message, et un message pour le monde entier. Et je crois que ça reste vrai. Le Liban a été le lieu d'une certaine coexistence pacifique qui le reste encore à peu près, même si on sent qu'aujourd'hui, avec l'afflux des réfugiés syriens et irakiens au Liban, après les Palestiniens, les islamistes aussi essayent d'entrer. Et je me souviens que le patriarche Rai, que j'avais rencontré, le patriarche des Maronites à Beyrouth, m'avait dit « Dites aux Français que s'il n'y a plus de chrétiens au Liban, et s'il n'y a plus de chrétiens en Orient, il n'y aura plus de chrétiens en Occident. » Ça veut dire que c'est le berceau du christianisme, que ces minorités assurent une certaine cohésion et une certaine paix dans cette région. Dès lors que des minorités, sans doute islamistes, mais très convaincues à partir du Coran, décideront de convertir tout le monde à l'islam ou d'expulser les chrétiens ou de les exterminer comme l'État islamique en a manifesté l'intention, eh bien ça risque de créer un tel désordre et un tel chaos dans le Moyen-Orient que l'islam conquérant avancera et progressera ailleurs. Et nous savons bien, hélas, qu'un certain nombre de djihadistes viennent d'Occident, d'Europe, que plus d'un millier sans doute de djihadistes viennent de nos banlieues françaises et ont été formés quand même en France pour partir faire le djihad en Syrie et en Irak aujourd'hui. Peut-être pour revenir. Pourquoi faire? Vous voyez, je pense qu'il y a une vraie inquiétude qui d'ailleurs n'échappe pas, comme vous le savez bien, au gouvernement français actuellement.
Alors, Monseigneur Ayet, vous l'avez évoqué, nous avons une communauté de chrétiens d'Orient qui sont présents à Pau, sur la paroisse de Sainte-Marie du Hameau, des Chaldéens. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous êtes souvent en contact avec eux? Parlez-nous un petit peu d'eux, puisque nous les connaissons assez.
Alors, je les connais bien depuis ma visite pastorale dans cette paroisse Sainte-Marie du Hameau, où j'avais découvert cette communauté, et à peu près une quarantaine de familles, hein, quand même, qui sont arrivées à Pau dans les 20 dernières années, c'est-à-dire depuis la guerre du Golfe en 91, et donc qui ont dû quitter leur pays, même s'ils ont laissé beaucoup des leurs, principalement à Zako, dans le nord de l'Irak, à quelques kilomètres de la frontière turque, à 90 kilomètres au nord de Mossoul, vous voyez, en plein dans ces lieux qui sont quand même très dangereux en ce moment, et dont certaines familles aussi, membres de leur famille, ont été obligés de quitter Karakoch et Mossoul, là, dans la précipitation, et sont maintenant dans des camps de réfugiés où il manque du nécessaire, à Erbil, la capitale du Kurdistan. Donc je les avais découverts et j'avais été très frappé par la ferveur de cette communauté, leur fidélité dans la foi. Jeunes et vieux. D'ailleurs, les jeunes, je les rencontre très souvent de ces familles dans le cadre de la pastorale des jeunes. On en a emmené aussi au JMJ de Madrid et de Rio. Et donc, on est assez en contact avec eux. Et j'avais même été frappé que dans cette paroisse de Sainte-Marie du Hameau, ils étaient très engagés parce qu'ils n'ont pas de prêtre chaldéen, donc ils suivent notre rite latin de leur paroisse. Et moi, j'étais pendant le carême, je me souviens, et tous les vendredis, ils étaient fidèles à faire leur chemin de croix à l'église Saint-Jean-Baptiste. Et je me disais même que s'ils n'étaient pas là, il manquerait beaucoup de monde dans cette paroisse. Aujourd'hui, d'ailleurs, ils sont au conseil paroissial, ils participent à la liturgie le dimanche, etc. Et j'ai été remis forcément en contact avec eux par ce qui se passe. Je me suis rappelé évidemment de cette communauté qui d'ailleurs a essayé elle-même de me joindre justement pour m'associer à un rassemblement qu'ils veulent organiser ici dans notre diocèse. Et à ce moment-là, je leur ai dit pourquoi vous ne viendriez pas avec moi à Bordeaux où il y a une manifestation qui a lieu le 13 septembre. Donc on a frété un car pour eux et ils ont été très heureux d'être là, de témoigner aussi. Hein, à la fois de leur ferveur, de leur foi, et puis en même temps de leur inquiétude pour leur famille en Irak.
Oui, il y a eu un autre rassemblement que vous avez soutenu à Pau le 27 septembre dernier. Monseigneur, en un mot, comment apporter notre aide aux chrétiens d'Irak aujourd'hui?
Alors, je crois qu'il y a plusieurs manières. D'abord, c'est la prière. Hein. Il faut vraiment croire que celui qui est le maître des temps et de l'histoire, c'est le Seigneur. Hein. Et donc il faut redoubler de confiance en Dieu, qui n'abandonne pas ses enfants, hein, même s'il permet parfois que, plus qu'à leur tour, certains participent à la passion de son Fils, qui est le grand mystère de la rédemption. Mais je crois qu'il y a d'abord la prière. Ensuite, je dirais qu'il y a le témoignage de notre foi. Notre fidélité dans la foi, ici, est aussi un signe d'encouragement pour ceux qui restent fidèles à leur foi dans des conditions qui sont bien plus difficiles que nous. Sommés de se convertir à l'islam ou bien de fuir ou de mourir, eh bien ces chrétiens irakiens ne se convertissent pas à l'islam et restent fidèles au Christ. Ça, c'est un exemple pour nous qui est très grand. Et je crois qu'on a besoin du témoignage des confesseurs de la foi et des martyrs de notre temps, dont le pape François dit qu'ils sont plus nombreux aujourd'hui qu'au premier siècle de l'Église où nous avons été marqués par les premières persécutions romaines, qui sont toujours dans nos esprits. Et la dernière manière d'aider, c'est évidemment de voir comment concrètement on peut les aider. Alors justement, dans ce rassemblement du 27 septembre à Pau, non seulement nous avons prié pour nos chrétiens frères et sœurs persécutés, non seulement nous avons attiré l'attention sur le drame qu'ils vivent, pour qu'on prenne conscience aussi de tout cela, non seulement nous avons appelé à être nous-mêmes des témoins de notre foi et de vivre vraiment notre cohésion au sein de l'Église, entre nous et avec eux, mais nous avons aussi invité à des actions concrètes, de parrainage, de famille. C'est facile pour nous, puisque nous avons des familles chaldéennes qui sont en lien avec leurs familles, à Zako ou à Erbil, par l'intérieur des églises aussi chrétiennes de ces contrées. Et puis aussi des actions concrètes en rejoignant des initiatives proposées par l'œuvre d'Orient, par l'aide à l'exil en détresse, par des associations plus laïques comme Fraternité en Irak, une autre association qui s'appelle SOS Chrétien d'Orient, qui ont des projets concrets à nous proposer que nous pouvons financer. Voilà. Et c'est de cette manière-là que nous avons invité les diocésains à prendre leur part pour aider ces chrétiens d'Irak. Souvent, ils manquent du nécessaire. Leur envoyer des médicaments, C'est pour ça qu'il faut être en lien avec des associations qui travaillent sur le terrain.
Radio Lapourdi Irratia, votre radio chrétienne en Pays Basque. 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Le pape François a convoqué un synode pour la famille du 5 au 19 octobre à Rome. Qu'est-ce que vous attendez, Mgr Hayé ?
Alors c'est un synode extraordinaire de la famille hein, qui est centré sur les enjeux, les défis pastoraux de la famille dans le contexte de la nouvelle évangélisation, selon le thème de ce synode, qui ne nous donnera pas des résultats immédiats, puisque comme vous le savez, c'est un synode extraordinaire qui rassemble d'abord les cardinaux de la curie, les présidents des conférences épiscopales, pour un premier partage et tour d'horizon sur la question, qui a été préparé par un questionnaire envoyé largement dans l'Église, dans le monde entier, pour sentir la situation où on en est chez les chrétiens par rapport à l'enseignement de l'Église, sur la question du mariage, sur la disponibilité, de l'accueil de la vie, etc. Et qui sera suivi d'un deuxième synode ordinaire, cette fois, avec des représentations de toutes les, de tous les évêques du monde entier, pour donner des orientations et des préconisations.
Ce sera en 2015, c'est ça ?
En 2015, voilà, donc l'année suivante. Vous voyez, donc on va être à l'heure de la famille pendant 2 ans. Moi, j'en attends, c'est vrai, des orientations pastorales, en particulier face aux situations difficiles qui se multiplient et qui sont largement liées aussi à, j'allais dire, une baisse de régime au plan à la fois de la connaissance et de la pratique chrétienne au niveau même du mariage et de la famille au sein de l'Église catholique, sous la pression évidemment de l'évolution des mœurs. Hein, dans notre société d'aujourd'hui, où on voit bien qu'elle n'apporte pas que du bien, et qu'elle apporte aussi beaucoup de désordre, et beaucoup de blessures, et beaucoup de souffrances. Donc j'attends évidemment que, je n'attends pas que l'on infirme la discipline, comme certains se croient obligés de le prôner, et de le proclamer, par rapport à une question qui reste importante parce qu'elle est liée à beaucoup de souffrances grandissantes dans la société d'aujourd'hui, et y compris dans notre communauté chrétienne, qui est celle des divorcés mariés et de l'accès au sacrement des divorcés mariés, pour laquelle l'Église a une discipline, mais que, dont on a fait comme l'essentiel du synode. Bien sûr que c'est beaucoup plus large que ça, même si c'est symptomatique hein, des fragilités et des souffrances que nous vivons. Je n'attends pas une manière d'infirmer ni la doctrine ni la discipline. Je crois qu'il faut cesser d'opposer de manière dialectique, ça c'est une dialectique hegélienne qui a été introduite dans la vie sociale depuis des décennies par le marxisme, et qui reste présente, même si on voit bien que le marxisme est mort, entre la vérité et la miséricorde, voyez ? Entre la doctrine sur le mariage, tirée de l'Évangile, comme si Jésus n'était pas attentif dans l'Évangile aux personnes souffrantes, et la pastorale accompagnant des personnes. Non, les deux sont absolument inséparables et indissociables. Ce que j'ai vu dans l'Instrumentum Laboris, c'est-à-dire l'instrument de travail, le document de travail sur lequel vont plancher les pères, qui a été publié au début du mois de juillet, après le dépouillement de ce questionnaire, qui n'était d'ailleurs pas un sondage d'opinion, mais bien un questionnaire qui voulait se rendre compte de la situation et du positionnement des catholiques par rapport à l'enseignement de l'Église, c'est qu'il n'est pas question d'infirmer l'enseignement de l'Église, et ce qui est déterminant pour la discipline sacramentelle, mais de voir comment on peut mieux accompagner les personnes, comment on peut mieux les rejoindre dans leurs souffrances, comment on peut mieux leur donner leur place dans la communauté de l'Église et leur faire comprendre qu'ils sont toujours enveloppés de la tendresse de Dieu et appelés comme tous, comme nous tous, que nous sommes dans une situation dite régulière ou irrégulière, à un chemin de croissance et un chemin de conversion à l'Évangile, parce que tout cela ne peut pas être détaché de cet appel à la conversion qui fonde la mission de Jésus dans l'Évangile et donc la mission de l'Église.
Alors, dans notre diocèse, justement, vous avez souhaité relancer la pastorale familiale. Quelles sont les actions qui vont être menées cette année, très concrètement ?
Alors, après, je crois, un vaste, là aussi, on va dire, consultation des curés de paroisse, des pasteurs, et aussi des acteurs de la pastorale familiale dans notre diocèse, en particulier dans le cadre de la préparation au mariage, sans doute, qui est au cœur de nos, pour l'instant, de nos préoccupations, mais pas suffisamment, pas seulement, et d'autres pas suffisamment, justement. Donc le délégué épiscopal à la pastorale de la famille et de la vie a rencontré déjà beaucoup de curés et continue à les rencontrer pour savoir quelles sont leurs attentes par rapport à la pastorale familiale, quelles sont leurs difficultés, quelles sont les réalités en présence aussi. On va axer cette année sans doute sur des actions de formation pour les couples et les prêtres qui préparent les jeunes au mariage. Parce qu'on voit bien que les grandes souffrances, les grandes fragilités connues par la famille aujourd'hui, viennent de cette fragilité de l'engagement du mariage chez beaucoup de jeunes qui, encore aujourd'hui, même si c'est un nombre décroissant, demandent à se marier à l'Église. Donc c'est là où il faut axer en amont de toutes ces fragilités dont nous sommes les témoins, souvent impuissants et démunis, du mariage et de la famille, dans le cadre de la préparation. Donc il va y avoir des cycles de formation qui engagent beaucoup de prêtres, de laïcs du diocèse pour la préparation au mariage. Des week-ends couples aussi qui seront organisés pour aider à mieux consolider son union, pour des jeunes mariés, aussi pour des grands-parents, pour mieux savoir tenir leur place dans la famille face aux fragilités des générations qui montent. Et puis, l'idée aussi, c'est de mettre en place ce que les Espagnols appellent un COF, c'est-à-dire un centre d'orientation familiale, qui permettrait justement d'avoir un lieu d'accueil, d'écoute, d'accompagnement pour toutes les personnes qui sont en souffrance, qui sont fragilisées par rapport à la question du mariage et de la famille, comme de l'ouverture à la vie, de la vie conjugale et de toutes les difficultés que l'on peut rencontrer dans sa vie affective. Donc je crois que ça, c'est un beau projet qui nous permettra en effet de rejoindre davantage ceux qui sont dans des souffrances et dans des difficultés par rapport au mariage et à la famille.
L'Académie diocésaine pour la vie organise une grande conférence internationale le 10 octobre à Bayonne. Si tu veux la paix, défends la famille. C'est le thème de cette conférence.
Voilà, c'était repris d'une parole de Mère Teresa, vous savez, qui disait « Si tu veux la paix, défends la vie ». Là, c'est un peu plus la famille et la vie, c'est un peu plus large. Mais c'est pour que l'Académie diocésaine pour la vie lance son année. Elle a proposé une conférence internationale qui soit en réduction, une suite du colloque international pour la vie que nous avons organisé maintenant il y a 2 ans à Biarritz et qui permettent de rendre compte aussi des contacts que nous avons établis, que j'ai établis pour ma part, avec des associations pro-famille et pro-vie, tant aux États-Unis qu'en Russie. Ces fameux voyages qui ont parfois défrayé la chronique, à mon avis, de manière excessive. L'idée qui est derrière, de manière très modeste d'ailleurs, c'est de favoriser une sorte d'international de la famille et de la vie, à l'époque d'une culture très mondialisée, où tous les problèmes sociétaux en particulier sont mondialisés, pardon. Et c'est une manière de dire une international de la famille et de la vie sera beaucoup plus au service de la paix que toute autre réalité, puisque la paix entre les personnes commence au sein de la famille et dans l'accueil de l'enfant à naître. Donc c'est pourquoi il y aura... c'est un peu, si vous voulez, le thème de cette conférence, c'est un peu la famille à la croisée des cultures. Anglo-saxonne avec américain, russe avec... et donc européen avec un russe qui viendra, orthodoxe, et puis un Irakien qui nous rappellera aussi le drame vécu par les chrétiens d'Irak, où les familles sont divisées, expulsées, les femmes vendues en esclavage, les petites filles kidnappées, enfin, etc. Voilà.
Les 14 et 15 novembre, le diocèse de Pampelune organise un colloque pour la vie. C'est la suite de celui de Biarritz.
Alors voilà, c'est tout à fait la suite de celui de Biarritz, parce que nous avions pris la résolution avec les évêques du Pays Basque de perpétrer cette initiative de colloque international tous les 2 ans, une fois en France et une fois dans un diocèse d'Espagne. Et donc c'est Pampelune qui avait accueilli la première initiative espagnole, mais ça reste un colloque international auquel nous sommes nous aussi invités à participer.
Alors, dans certains diocèses, il y a une pastorale spécifique pour les chrétiens, entre guillemets, à la marge. Vous l'avez évoqué un petit peu, donc que ce soit les divorcés, les chrétiens homosexuels. Est-ce qu'il y a des projets spécifiques pour eux dans notre diocèse ?
Tout à fait. J'ai demandé à la pastorale familiale d'organiser cette année, comme moi je l'avais organisé quand j'étais vicaire général à Toulon et responsable de la pastorale familiale, des journées spécifiques pour les divorcés et les divorcés remariés. Donc, il y aura deux journées. Deux après-midi à Orthès, que j'animerai avec la pastorale familiale, pour aller à la rencontre des personnes qui vivent ce drame et cet échec du divorce. Et puis ensuite, petit à petit, on avancera dans toutes les difficultés rencontrées par les uns et les autres.
Le 5 octobre, il y aura la Manif pour tous à Bordeaux, donc un rassemblement contre notamment la GPA, c'est ça ? Vous y serez, vous y allez, vous incitez les chrétiens du diocèse à y aller ?
Alors, moi, je ne serai pas à Bordeaux parce que je suis, pour une manifestation liturgique, invité à Paris ce jour-là. Donc, sans doute que l'après-midi du 5 octobre étant à Paris, je participerai sans doute à la manifestation de la Manif pour tous à Paris. Mais je vais y inciter quand même les paroissiens, quitte à paraître lourd à certains, qui parfois ont brandi l'accusation portée aux évêques qui sont intervenus il y a un peu plus d'un an pour encourager les fidèles à participer à ces manifestations contre la loi Taubira, qui a fini par passer, et nous accuser souvent de division des chrétiens. Je ne crois pas, je crois qu'il faut toujours penser aux plus faibles, aux plus fragiles, aux plus démunis, ceux qui sont le plus en danger. Aujourd'hui, c'est la dignité de la personne humaine qui est en danger, c'est la dignité de l'enfant. Cette manifestation est organisée contre la GPA et la PMA d'abord, la procréation médicalement assistée, donc avec l'autorisation pour les couples de lesbiennes d'y recourir, afin d'adopter des enfants qui soient nés artificiellement d'une PMA, et par déni du père. Et donc, dans la suite, on ne voit pas comment ça peut être autrement, puisqu'il y a une égalité entre les hommes et les femmes, que les couples d'hommes homosexuels puissent obtenir la possibilité de la GPA, c'est-à-dire de la gestation pour autrui, en gros la marchandisation du corps, qui est un véritable business autour des mères porteuses. Voyez, je crois que la loi Taubira l'incluait au départ. Devant la montée de l'opposition, qui a quand même énormément ébranlé, comme vous le savez, la majorité actuelle, le gouvernement actuel, même si la loi Taubira est passée, la PMA et la GPA ont été repoussées. Bon. Et on nous a dit, à ce moment-là, mais non, il n'est pas question, finalement, c'est reporté sine die, etc. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, tout revient par la petite porte. C'est pourquoi les choses sont très, très... Et c'est la conséquence logique de la Taubira, comme cela a été dit par ceux qui ont manifesté contre cette loi. Car comme vous le savez, si le Conseil constitutionnel a décrété qu'il était absolument contraire à la Constitution et donc à la loi, l'adoption en France d'enfants qui seraient nés à l'étranger par PMA ou par GPA... Aujourd'hui, la Cour de cassation vient de rendre un avis qui autorise une femme qui a obtenu un enfant par PMA à l'étranger, alors puisque c'est illégal en France, à le faire adopter par sa compagne. Vous voyez, c'est donc un déni de la loi qui serait légalisé par la Cour de cassation, qui est une contradiction grave. On ose dire que c'est pour le plus haut intérêt de l'enfant. Mais non, puisqu'on a provoqué artificiellement la naissance d'un enfant orphelin de père, on a dénié à cet enfant la possibilité d'avoir un père pour pouvoir l'adopter. C'est le contraire de l'adoption. Qu'est-ce que c'est que l'adoption ? C'est donner une famille à des enfants qui, par les malheurs de la vie, se sont trouvés orphelins. Là, on crée des enfants orphelins pour pouvoir les adopter. C'est le comble du machiavélisme, si vous voulez. Et donc je pense qu'il faut que les Français prennent conscience de la gravité de la situation. C'est la dignité de la personne humaine, de la plus petite, de la plus faible qui est en jeu. Et c'est pourquoi, une fois de plus, j'inciterai à se mobiliser pour faire entendre cette voix à un gouvernement qui, malgré la chute de popularité dans les sondages, semble complètement sourd aux... au cri de ses enfants. Voilà.
Radio Lapourdi Iratia, 96.8 à Bayonne, 96.9 à Saint-Palais, 106.9 à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Monseigneur Ayé, un petit retour sur l'été et puis les perspectives de cette année qui nous attend pour notre diocèse. Cet été, c'est vrai qu'il y a eu de nombreux pèlerinages, que ce soit Ibar, Roncevaux, Isturitz, les processions du 15 août, Sarans, Bétarame, pléthore de pèlerinages qui permettent aux diocésains de se retrouver et de prier. C'est vrai que notre diocèse reste très attaché à cette religiosité populaire. Est-ce que pour vous, c'est un signe d'espérance ?
Oui, c'est toujours un signe d'espérance parce que même si c'est porté par une tradition, et qu'on voudrait aussi que, comme on disait au moment du Concile, que les chrétiens de tradition deviennent toujours plus des chrétiens de conviction. Mais je crois que c'est un signe d'espérance parce que ça montre bien que dans le monde d'aujourd'hui, où Dieu est souvent rejeté en dehors de l'horizon de la vie humaine, de la vie sociale en particulier, avec pas mal de manifestations anti-chrétiennes, anti-religieuses, anti-catholiques, ça montre bien que le cœur des gens demeure attaché à ce lien transcendant avec le Seigneur, avec Dieu, hein, avec la religion, hein, qui apporte aussi précisément un sens et une espérance à la vie des hommes. Et je pense que c'est aussi ça que ça veut dire, non seulement que les manifestations de piété populaire autour de Saint-Michel-Garicoïds, autour de Notre-Dame de Roncevaux, etc., perdurent, mais aussi de nouvelles, avec une recrudescence, comme un peu plus de processions du 15 août cette année, en portant la statue de la Sainte Vierge, des endroits où on ne le faisait pas habituellement. Bon. Comme disait le pape Benoît XVI, et je pense que c'est confirmé aussi par le pape François qui vient du monde latino-américain, pour qui la piété populaire est vraiment un trésor, et on le voit bien d'ailleurs à ses attitudes à lui, très, pleines de piété vis-à-vis de la Sainte Vierge, une statue de la Sainte Vierge, des lieux de pèlerinage, etc. Comme disait le pape Benoît XVI, la piété populaire, c'est la foi qui rentre dans le cœur des gens. Alors on sait bien que ça a besoin d'être purifié, que ça a besoin de toute superstition, que ça a besoin d'être évangélisé, mais ce sont des moyens de rattacher l'homme à Dieu et à l'amour de Dieu, et ça c'est très important.
Et puis l'été, surtout à Bayonne, avec les fêtes, c'est aussi des occasions d'évangélisation, donc différents groupes sont venus dans notre diocèse, à Ein Carême, à Gourmaria, et puis il y a bien sûr la traditionnelle messe des Bandats. Est-ce que c'est aussi pour vous ces manifestations, des signes d'espérance, d'évangélisation ?
Moi, je pense, c'est une réponse aux appels des papes et du pape François en particulier, quand il nous dit qu'il faut annoncer la nouveauté de l'Évangile à voix haute, en tout temps, en tout lieu et même à contre-courant, redisant un peu ce grand appel à la nouvelle évangélisation du pape Jean-Paul II, qu'il reprend complètement à son compte. Je crois que c'est donner une visibilité au message d'espérance que nous donne l'Évangile et la foi chrétienne, porté par des témoins, dans un monde qui est en quête de sens. Et on voit bien d'ailleurs que chaque fois que l'on donne de la visibilité à travers des actions d'évangélisation, comme autour de la cathédrale cet été, pendant les fêtes de Bayonne, comme autour du 15 août, avec Ein Carême, et en bien d'autres lieux de nos paroisses, eh bien ça répand une attente. Que les gens entrent dans un questionnement, que les gens entrent dans un dialogue, que comme Paul VI l'appelait, le dialogue entre l'Église et le monde, le dialogue du salut. J'ai eu le témoignage aussi d'un séminariste de notre diocèse qui a fait cette expérience à Lourdes depuis quelques années, pendant le temps des pèlerinages d'été. Les séminaristes sont invités en eau blanche, ou les prêtres en costume ecclésiastique, en col romain ou en soutane, que sais-je, en costume religieux, à se maintenir devant les lieux des sanctuaires, sur l'esplanade, pour être à visible et pouvoir répondre aux interrogations des gens. Et ce CMS me disait, c'est extraordinaire comment cette visibilité m'a permis d'être témoin de choses extraordinaires qui se passent dans le cœur des gens, qui viennent, qui demandent, qui disent pourquoi ils sont là, qui confient leurs souffrances, leurs blessures, qui rentrent à l'église, qui sortent rayonnant de joie, etc. Et je crois que cette visibilité, c'est pas du tape à l'œil, c'est pas du marketing, c'est pas du prosélytisme. C'est une manière d'être là avec douceur et respect, comme dit Saint-Pierre dans sa première épître, pour rendre compte de l'espérance qui est en nous devant un monde qui nous en demande raison. Mais il faut être visible pour ça. Hein. Et je crois que c'est cette visibilité pleine de douceur, d'accueil, de bienveillance, qui est un signe d'espérance, parce que les gens sont en attente. Et on le voit bien dans les rencontres que l'on fait.
Après l'année sacerdotale voulue par le pape Benoît XVI, le pape François a souhaité que 2015 soit une année de la vie consacrée. Pour notre diocèse, ça coïncidera aussi avec l'année du bienheureux Louis-Édouard Sestac, on peut déjà l'appeler comme ça, puisqu'il sera béatifié en mai prochain, le 31 mai pour être précis. Alors, en quoi le père Sestac a-t-il marqué dans notre diocèse ?
Alors, le père Sestac est un des fils de notre diocèse. Hein. C'est un prêtre d'abord, une belle figure de prêtre qui était vicaire puis chanoine de la cathédrale de Bayonne pendant près de 20 ans, mais qui a eu aussi un souci des plus pauvres. En pleine révolution industrielle, nous sommes au XIXe siècle, et en recueillant les orphelines, d'abord d'une manière tout à fait spontanée et sans aucun plan préconçu. Et puis aussi ces jeunes filles qui, faute de moyens matériels, en cette période de grande précarité, eh bien, venaient dans les rues de la ville pour faire commerce de leur corps à travers la prostitution et pour gagner de l'argent. Et donc, eh bien, il s'est ingénié à les accueillir, à les recueillir, à les réhabiliter. Et pour cela, il a même créé, fondé les Servantes de Marie, qui sont omniprésentes encore dans notre diocèse, même si elles ont beaucoup vieilli, et qui sont maintenant aussi en Amérique latine, en Afrique et en Inde, où elles ont plus de vocation maintenant que chez nous, sans doute. Mais voilà, donc c'est à la fois une figure de prêtre qui a marqué la ville de Bayonne, ça c'est certain, et puis qui a marqué l'Église universelle en fondant une congrégation qui a essaimé dans l'Église universelle au service des plus petits, des plus pauvres, et qui s'est aidé de l'Esprit de Marie. Hein, vous savez comment, en allant à Buglose pour demander 50 000 francs de l'époque dont il avait besoin, que personne ne voulait lui donner à Bayonne, ni l'évêque, ni les notables, ni personne, il est allé les demander à la Sainte Vierge, et quand il est arrivé, il n'a même pas pu lui demander, parce qu'elle lui a dit « ne me demande que mon esprit ». Et c'est guidé par la Vierge Marie, avec l'Esprit de Marie, dans un charisme profondément marial, mais qu'il a accompli cette œuvre de charité et d'éducation dans la foi gigantesque. Alors, je crois qu'il a beaucoup marqué notre diocèse. C'est connu pour ceux qui connaissent bien les Servantes de Marie, qui connaissent bien ce haut lieu de notre diocèse qu'est le refuge. C'est connu à Anglette, oui. C'est connu universellement aussi par les gens qui, beaucoup plus nombreux qu'on ne pense, disent la prière Auguste, reine des cieux et maîtresse des anges, qui a été inspirée au père Sestac et qui est largement diffusée dans le monde. Mais c'est pas encore suffisamment connu par nos diocésains, qui connaissent beaucoup mieux son condisciple et ami, Saint-Michel Garicoitz, dont le procès de béatification de canonisation a été beaucoup plus rapide.
Alors justement, c'est vrai que le père Sestac est mort en 1868. Pourquoi est-ce que la procédure de béatification a été si longue ?
C'est un mystère que je ne m'explique pas. Je pense qu'il y a eu... l'héroïcité des vertus a été déclarée seulement en 1976 par le pape Paul VI. Je crois que l'enquête, comme on dit maintenant, de béatification sur ces vertus n'avait pas été très très bien faite à ce moment-là. Ensuite, il y a un miracle qui a été obtenu par son intercession, qui date déjà de 1941, vous voyez, bien avant, mais qui semble-t-il est resté dans la poussière des archives. C'était en pleine guerre, hein, la Deuxième Guerre mondiale, donc peut-être qu'il y a eu des retards à l'envoyer à Rome. Et il a été retrouvé seulement en 2007 par mon prédécesseur et l'évêque de Dax, Monsieur Breton, lorsqu'ils ont transféré l'évêché à la maison diocésaine. Ben, ils ont vidé les archives et c'est là qu'ils ont trouvé dans la poussière ce dossier du miracle, prêt à être envoyé à Rome, sous scellé.
Puisque le miraculé habite dans les Landes.
Alors le miraculé était un dacquois, en effet. Et donc il a fallu refaire toute la procédure, faire des contre-expertises médicales. Le docteur Tellier, qui était le médecin du bureau des constatations médicales à Lourdes pendant 10 ans, a fait à ce moment-là une contre-expertise. Et tout ça a été envoyé à Rome. Et alors ça a été un peu long quand même, parce qu'il a fallu 6 ans pour obtenir la reconnaissance du miracle par le pape, donc en juin dernier, sans doute parce que le postulateur de la cause n'était pas sur place et qu'il y a beaucoup de causes, ils ne sont pas assez nombreux à Rome, et comme ils me l'ont toujours dit, vous savez, pour avancer sur une cause de béatification, il faut que le postulateur soit à Rome et qu'il puisse tous les jours presque harceler la congrégation pour que ça avance. Bon, ben nous, ça, on n'a pas suivi cette procédure-là, mais on est bien heureux. Nous aussi, c'est le cas de le dire, que finalement la commission, la consulta médica, donc les experts médecins, à l'unanimité, et les théologiens, la commission des théologiens, à l'unanimité, ont décrété donc le caractère inexpliqué de ce miracle qui a donc été reconnu par le pape après l'avis du Conseil des cardinaux.
La Necestac aura lieu du 6 janvier 2015 au 6 janvier 2016. Pourquoi cette date du 6 janvier ?
Ah ben c'est l'épiphanie, c'est la date très importante puisque c'est la date de naissance et de baptême du Père Sestac. Et c'est un jour très important pour les servantes de Marie parce que c'est le jour où elles renouvellent leur vœu, leur profession religieuse. Donc c'est une grande fête au refuge. Et comme il est le fondateur des servantes de Marie, ça paraissait aussi logique de lancer ça le 6 janvier, sachant que l'année consacrée, de la vie consacrée, elle va commencer en Église universelle au début du mois de novembre. Hein, ça, au mois de novembre.
Voilà. Alors, la béatification aura lieu le dimanche 31 mai, c'est aussi une fête de la Vierge Marie.
Alors c'est normalement la mémoire de la Visitation, mais ce dimanche-là, ce sera le dimanche de la Sainte Trinité. Et d'ailleurs, il avait développé dans sa doctrine spirituelle, si je puis dire, les liens entre la Vierge Marie et la Sainte Trinité, donc ça tombe très bien. Et donc ce choix a été fait conjointement par les servantes de Marie et le diocèse de Bayonne, et nous avons opté pour le faire à la cathédrale de Bayonne, puisqu'il a été quand même prêtre diocésain toute sa vie et qu'il était prêtre de cette cathédrale.
Ce sera la journée finalement diocésain en fête.
Voilà, ce sera la journée diocésain en fête qui tournera autour de la béatification l'après-midi, qui sera présidée par le cardinal Amato, le préfet de la congrégation pour le culte des saints, et qui donc est mandaté par le pape pour proclamer cette béatification en son nom, mais dans notre diocèse, puisque la béatification, comme vous le savez, ouvre sur un culte d'abord local, et non pas encore de l'Église universelle, même si d'autres peuvent s'y joindre, et c'est le pape Benoît XVI d'ailleurs qui a rétabli la béatification, à cause de cela, dans les diocèses.
Donc tout se passera à Bayonne, rien.
Tout se passera à Bayonne, mais toute l'année on fera des choses entre Bayonne et...
Alors comment va être préparée cette journée et les propositions de toute l'année? Est-ce qu'il y a un groupe particulier qui va être mis en place?
Alors il y a un petit comité de pilotage en lien avec les servantes de Marie qui elles-mêmes sont en train de plancher pour l'organisation de toute cette année Sestac va être mis en place. Il y aura certainement des manifestations autour du Père Sestac la veille au soir et la matinée du dimanche pour converger vers le point d'orgue de la béatification l'après-midi.
Donc une date à retenir, le 31 mai 2015 à la cathédrale de Bayonne.
Voilà.
Merci beaucoup Monseigneur Hayet. Peut-être un dernier mot, un message aux catéchistes qui commencent leur année et qui vont se retrouver les 11 et 12 octobre à Salis de Béarn.
Voilà, donc le 10 et 11 octobre à Salis de Béarn, les deux journées de rentrée des catéchistes que nous organisons déjà depuis quelques années, à Salis de Béarn, en effet, comme chaque année, qui d'ailleurs a été baptisé cette année « Catéchèse en fête », comme vous le savez, comme diocèse en fête. Bon, très bien. Et qui tournera autour de l'éveil des vocations à la vie consacrée, à la vie sacerdotale, par le biais de la catéchèse. C'est le thème qui a été choisi par le service diocésain de la catéchèse, précisément à cause, à cause de l'année de la vie consacrée et à cause de l'année Sestac. Vous voyez, de mettre un peu le projecteur sur ces deux grandes réalités de la vie de l'Église.
Merci Monseigneur Hayet, merci Violaine Ricourt-Dumas et merci à tous ceux qui ont suivi cette émission.
Shema Israël, Audi Israël, Écoute Israël, Ensun Israël, Escute Israël.
Merci à Monseigneur Marc Hayet, évêque de Bayonne, Lescar et Oloron. Retrouvez toutes les informations diocésaines sur le site
www.diocese-bayonne.org.